Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Louis.
Nova.
J'adore parler, je suis la plus bavarde de mon entourage et on me dit souvent que je parle trop. Non mais mes potes, ils me disent ça y est, on a compris, parce que quand j'ai une idée ou quand on est dans un débat, je ne laisse plus la parole aux gens, enfin j'ai trop besoin que mes idées soient entendues en fait, très grave.
Le 24 février dernier, sur YouTube, vous pouviez voir un spectacle d'un nouveau genre. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, dans une salle de l'Élysée éclairée de néons roses et bleus, lançait l'émission Sans filtre, destinée à intéresser les jeunes à la politique du gouvernement. Comme invité, des influenceurs parmi lesquels Élise Goldfarb, 27 ans. Élise ne colle à aucun moule. Devenue entrepreneuse dans les médias à 22 ans, cofondatrice avec sa meilleure amie Julia Layani d'une agence de conseil qui porte leurs deux prénoms, elle a accompagné Melty comme Petit Bateau ou Zalando. Sur Instagram, on peut la voir en photo avec Emmanuel Macron, comme avec une star de la télé-réalité ou sa grand-mère. Elle prend la parole chez Cyril Hanouna pour dénoncer la manière dont certaines multinationales profitent de l'exploitation des travailleurs ouïghours en Chine, tutoie Gabriel Attal et l'exhorte à ouvrir les musées plutôt que les magasins, multiplie les stories sur Instagram pour soutenir certaines associations ou le personnel soignant, tout ça mélangé à des vidéos d'elle en train de papoter avec ses copains et de filmer leur fou rire. J'ai voulu l'interroger sur cette liberté de ton et de parole qu'elle semble partager avec son associée Julia et sur la manière dont elle l'avait conquise. Je suis Charlotte Pudlowski, bienvenue dans Fracas.
Julia, je l'ai rencontrée à une teuf. En première, on était les bandes ennemies. Et en fait, on a commencé à se parler. J'ai réalisé qu'elle était incroyable. Et on s'est parlé toute la nuit. Et on n'a plus jamais arrêté de se parler.
Et donc, votre amitié, elle s'est beaucoup construite là-dessus, sur le rapport à la parole.
Ben ouais, surtout que 2 ans après s'être rencontrés, on a eu une émission de radio. Enfin, nous, on a toujours été passionnés par la radio, par le dialogue. Quand on est devenues copines, elle m'a dit « Élise, faut qu'on fasse un truc avec tes tweets. » Parce que je tweetais beaucoup, je me foutais de la gueule du système éducatif et tout ça. Et ouais, bah oui, on a commencé à la radio, on a tout le temps un truc à dire, on a tout le temps envie de se vénère contre quelque chose. Donc oui, on a une relation très liée à la parole. Et quand on s'embrouille et qu'on se réconcilie, finalement, on empire limite notre embrouille parce qu'on parle pendant tellement longtemps qu'au bout d'une heure de conversation où tu ressasses toutes les raisons pour lesquelles tu t'es embrouillé, et ben il y a d'autres sujets qui remontent. Et là, tu commences à parler de trucs qui t'énervent chez elle, mais que tu n'avais même pas pensé à évoquer au début. Enfin, on parle trop.
Et donc, à quel moment vous vous êtes dit que vous vouliez faire de la parole votre métier? Parce que votre premier boulot avec Julia, c'est quand vous avez monté Fresh chez Minute Buzz. Enfin, votre premier boulot après vos études. Et Fresh, la spécificité, c'était que c'était monté par vous, c'était un média 100% vidéo, féministe, et donc on vous voyait beaucoup dans les vidéos raconter plein de trucs, et c'est le ton qui était particulier, et votre liberté de parole.
Ben, il faut savoir que déjà, moi, j'ai grandi dans un monde assez militant, je dirais. Je suis au scout depuis que j'ai 7 ans, et en fait, au scout, il se passe un truc très simple, c'est que si tu n'apprends pas à prendre la parole en public et à te battre pour qui tu n'existes pas. La cote de popularité au scout dans cette colonie de vacances, ça se mesure pas par est-ce que t'as le dernier sac à la mode parce qu'on est tous en uniforme, c'est est-ce que tu sais bien t'exprimer en public et est-ce que t'es un leader d'opinion. Et donc j'ai été obligée dès l'âge de 7 ans, enfin je me suis sentie un peu forcée à sortir de ma coquille et à apprendre à m'exprimer. Et d'ailleurs je remercierai ce mouvement toute ma vie parce que c'est grâce au scout que j'ai appris à manager, que j'ai appris à prendre la parole et que j'ai appris à me défendre. Ça m'a donné aussi la force d'être une meuf vénère. Et quand j'ai rencontré Julia, elle avait aussi un peu cette fibre, mais moins dénonciatrice que moi. Elle était juste très bonne oratrice. Et en fait, elle m'a dit, écoute, toi, t'as plein de trucs à dire qui sont assez vrais, enfin, t'es vénère. Viens, on fait ça ensemble, genre j'ai envie de t'épauler dans ce truc, quoi.
Ça a l'air d'être une vertu en soi d'être vénère pour toi.
C'est pas une vertu en soi, mais moi, je déteste chez les gens la passivité. Et en fait, j'ai assisté, je pense dans ma jeunesse, à trop de scènes qui m'ont rendue dingue et je ne pouvais pas parler. En fait, en tout cas, je sais que je voulais travailler dans les médias parce que je voulais que tout ce qui m'a énervée toute ma vie, qui m'a fait me sentir pas adaptée à la société, je voulais que ça n'arrive plus et je voulais faire fermer la gueule des méchants qui avaient imposé ces trucs-là. Genre les couvertures de magazines, genre la politique, le racisme, l'antisémitisme, le sexisme. Mais je me disais pas quand j'avais 8 ans, ouais, le sexisme, c'est relou. Mais je me rends compte avec le recul que ça a vachement joué.
Et alors du coup, comment ça s'est passé chez Fresh? Comment vous avez gagné cette liberté-là de raconter un peu ce que vous voulez, de vous mettre en scène dans les vidéos?
On n'a pas gagné cette liberté, on l'a prise, déjà. C'est-à-dire que dès qu'il y avait des doutes sur les sujets qu'on voulait aborder, on leur disait « au pire, vous nous virez. Et si vous ne nous laissez pas le faire, on démissionne. » Parce que en vrai, on avait de la chance, on n'avait rien à perdre. Moi, j'étais étudiante quand on a été prise pour faire Fresh. Donc je me disais, et au pire, je me fais virer et je reprends ma L3 et puis c'est bon, quoi, j'y retourne. Donc j'avais cette espèce de filet de sécurité des études. Aussi, on était deux. Le fait d'être deux, ça fait que tu n'as peur de rien. On leur disait ça, on passait un peu par la menace, mais pas la menace violente. On leur disait, si vous ne nous laissez pas mettre une chef d'entreprise ou une drag queen dans notre vidéo, on s'en va. Et en fait, vous êtes ridicule. Et c'est un peu souvent ça, même avec nos clients aujourd'hui, c'est qu'on est assez ingérable. C'est qu'on leur dit, nous, c'est ça ou rien. Je vais te dire, même pour Fresh, quand on a créé Fresh, au début, il n'y avait que moi qui étais recrutée. Parce que c'est moi qui avais répondu à l'annonce sur Facebook de Maxime Barbier, le PDG de Minute Buzz. Et je lui avais dit, je viens avec ma meilleure amie ou rien. Et déjà, lui, là, il m'avait dit, mais tu te prends pour qui? Enfin, je te propose un CDI, en fait. Tu sais combien de personnes en rêvent? J'ai dit, ouais, moi, je m'en fous, je suis en partiel, de toute façon. Donc, on est deux. Et bon, il nous avait dit, vous devez vous partager un salaire, du coup. Ce qu'on a fait pendant longtemps. Et ouais, bah, on impose, quoi. On impose le fait de c'est comme ça et pas autrement. Et je me dis que, au pire, si ça passe pas, c'est-à-dire que je n'avais rien à faire là.
Et cette liberté que vous avez, tu dis que c'est le fait d'être deux qui donne ça. Moi, je suis deux avec Mélissa. Je crois pas qu'on se sente aussi libre ou aussi autorisé à tout dire ou à tout faire que vous. Est-ce que tu saurais dire s'il y a d'autres raisons, je sais pas, des choses qui vous autorisent comme ça oui. Dans vos parcours?
Je pense qu'on a un grand privilège avec Julia, déjà qui sont que nos parents sont entrepreneurs. Donc, depuis qu'on est petite, on voit l'entrepreneuriat, on voit ce que c'est de devoir se battre pour ses idées, devoir se démerder tout seul. Et moi, franchement, c'est ma mère. Depuis que je suis petite, c'est une girl boss, mais une vraie. C'est un dragon. J'ai grandi dans un matriarcat total, où c'est un peu les femmes qui ont le pouvoir. Et mon frère et mon père, ils ont toujours fait la cuisine et débarrassé la table, tu vois. Et c'est les femmes qui ramènent l'argent un peu à la maison. Et elle m'a toujours dit des trucs en mode, meuf, si t'es passive dans la vie, ne t'arrivera rien. Si tu ne défends pas ceux qui doivent être défendus, t'es une merde. Enfin, très clairement, elle m'a toujours dit des trucs comme ça. C'est les valeurs avant tout, à tel point que limite, ça en était parfois too much. Je lui disais, oui, mais parfois, il y a des exceptions où tu peux aussi penser à toi. Elle me disait, non, pas du tout. Est-ce que tes ancêtres, ils ont pensé à eux quand ils ont dû sauver le peuple juif? Est-ce que pendant la Shoah, quand tes grands-parents étaient résistants alors qu'ils devaient se cacher, ils ont pensé à eux? Non. Donc, tu dois toujours penser à l'autre, tu dois toujours ouvrir la voie, tu dois toujours parler, parce qu'en fait, si on ne parle pas, on ne sait pas, et sans mémoire, il se passe rien. Donc, ouais, j'ai un peu cette névrose shoesque de la Shoah, de il faut parler, il faut dire ce qui va pas, il faut empêcher qu'un drame se produise, en fait.
Et donc ça, c'est permis par la parole d'empêcher les drames?
Oui, c'est par la parole. Les rescapés de la Shoah qui vont parler dans les écoles, c'est comme ça qu'on entend parler de la Shoah. Moi, il y a un truc qui m'a frappé quand je suis arrivée à la fac, c'est qu'il y avait, je pense, 10 personnes de mon cours de TD sur 16 qui ne connaissaient pas le mot Shoah. J'étais en mode, bah, c'est marrant, je suis à la Sorbonne en fac de droit. Les gens ne savent pas ce que c'est la Shoah. C'est-à-dire qu'ils n'en ont pas entendu parler. Donc c'est par la parole que ça passe, forcément. C'est que si tu as des témoignages, si tu l'apprends à l'école, si on te le transmet, tu es au courant. Si on ne parle pas, on ne sait pas. Et je pense que c'est le problème de beaucoup de causes aujourd'hui, d'ailleurs. C'est le devoir de mémoire. C'est qu'il y a un problème de mémoire en France sur toutes les communautés.
Et la liberté de ton que tu as et que vous cultivez avec Julia, c'est aussi une liberté de cadre, de parole, où vous parlez partout et de la même manière partout. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Donc, quand vous allez chez Cyril Hanouna, par exemple, dans Balance ton poste, ou quand vous allez à l'Élysée, comme tu l'as fait récemment, parce que Gabriel Attal a lancé une nouvelle émission sans filtre qui s'adresse aux jeunes avec des influenceurs. Il y avait notamment, il y avait toi, il y avait Enjoy Phoenix et quelques autres. Comment tu fais pour maintenir cette même parole partout.
En rencontrant des meufs que j'admirais grave ou des mecs, je me suis rendu compte que dans la vraie vie, ils n'étaient pas du tout comme ce qu'ils incarnaient. Et j'ai été hyper déçue. Je me disais, oh là là, donc cette personne qui apparaît comme une figure aussi libre dans la vraie vie, dans les médias, dans la vraie vie, n'est pas si sympa que ça et même un peu pas cool. Et je ne veux tellement pas être cette personne que j'essaie d'être le plus, comme je suis avec mes potes, dans le professionnel. Ce qui est parfois très grave, parce que, tu vois, quand je prends la parole dans Balance ton poste ou à l'Élysée, on me dit, mais cette meuf, elle parle mal, elle fait pas attention, elle respecte pas Gabriel Attal, par exemple, en l'occurrence, parce que je lui parle avec des mots que j'utilise dans la vraie vie, mais qui sont pas vraiment des mots qu'on utilise pour parler à un ministre. Mais à la fois, je ne sais pas faire autre chose, c'est tout. Je ne sais pas travestir qui je suis. Et j'ai pas envie de le faire. Et si ça dérange quelqu'un, bah, qu'on ne m'invite pas, mais on continue à m'inviter, donc ça fait plaisir, tu vois.
Et moi, ce qui me frappe aussi, c'est quand on suit ton compte Instagram, par exemple, il va y avoir une story sur les Ouïghours, l'instant d'après, il va y avoir une story sur ton chien, l'instant d'après, il va y avoir une story sur une marque. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, cette parole qui passe d'un sujet à un autre? Est-ce que c'est quelque chose que tu cultives exprès? Comment tu vois ça?
Il y a un truc qui est très français, qui est que on ne peut pas... Enfin, les gens aiment dire qu'on ne peut pas tout faire, qu'il faut choisir un sujet, qu'il faut choisir une thématique, ce qui n'existe pas du tout aux États-Unis. Aux États-Unis, t'as des meufs qui sont de grandes activistes, mais à la fois qui sont actrices, à la fois qui d'un coup se chauffent pour faire de la politique. Enfin, j'aime bien me dire que je peux parler de tout et de façon très sincère. Il m'arrive aussi souvent en story de remettre en question des trucs, de remettre en question par exemple ma vision de mon militantisme ou quoi. Et je pense que j'ai une communauté assez bienveillante parce que les gens me disent jamais que ce que je dis c'est choquant, mais parce que je pense que dans mes stories aussi je prône un truc qui est hyper bienveillant, tu vois. De les gens ont droit à l'erreur et les gens ont droit de faire ce qu'ils veulent et de parler de ce qu'ils veulent et c'est pas grave.
Et du coup, comment ça s'est terminé chez Fresh? Pourquoi vous êtes partie?
Chez Fresh, ça s'est terminé déjà parce que nous, on est incapable d'avoir quelqu'un au-dessus de nous. On ne peut pas avoir un patron, on le faisait pleurer, en fait. Quand il y a eu Balance ton porc, par exemple, il s'est fait accuser, lui, de... On va dire, il s'est fait ni accuser de harcèlement, ni d'agression sexuelle, mais il s'est fait accuser d'être très lourd. Ce qui, déjà, nous suffisait pour être énervé. Et donc, il prend la parole devant la boîte et il dit « Bon, j'ai fait un bad buzz, ça arrive. » Puis on est les 120 salariés devant lui. Et moi, je lui dis « Écoute, je suis désolée, mais il y a quand même une différence entre un bad buzz pour un truc marketing et un bad buzz parce que tu es accusé de harceler des meufs, tu vois, ou d'avoir été très déplacé avec elles. »
Et donc, tu dis ça devant tout le monde?
Devant toute la boîte, oui. Parce que pour moi, c'était mon grand frère. Le mec nous avait donné une chance alors qu'on avait 23 ans, il n'avait jamais regardé mon CV. Il nous avait tout de suite laissé faire tout ce qu'on voulait. Et en fait, tu ne te rends pas compte, dans les médias, enfin, je pense que tu sais à quel point c'est rare. On n'a jamais il a été relou avec nous, jamais il avait même été sexiste avec nous sur les sujets qu'on abordait. Il nous laissait parler de féminisme à une époque où c'était un gros mot. Donc je me disais, mais comment ce mec peut me décevoir à ce point? Donc je me suis adressée à lui comme à mon grand frère. Je lui ai dit, mais Maxime, pour qui je bosse en fait? Et un jour, on était en train de fumer une clope avec Julia au taf. Et aussi, il y a eu ce truc, attention, désolé, en fait, il y a eu plein d'autres raisons, je suis complètement nimpe. Il y a eu le fait que tous les médias venaient nous voir et nous disaient « Créez-nous un Fresh !» Et les marques nous disaient « Pourquoi vous faites pas du conseil ?» Et aussi, on en avait marre que toute la journée, on préparait des pubs pour faire du féminisme washing, en fait. C'était du pink washing. Il y avait des marques qui venaient nous voir en nous disant « Voilà, on veut vraiment... embrasser les femmes, prendre ce côté féministe alors que la marque elle était trop nulle et qu'elle nous aidait pas du tout et on n'en pouvait plus donner nos idées qui étaient bonnes pour des gens qui ne le méritaient pas. On fumait une clope avec Julien un jour et on s'est dit franchement on en a marre, on n'a plus envie de donner nos idées, on a envie de les garder pour nous, tout le monde nous fait chier et on a démissionné vraiment sur un coup de tête. On allait voir Maxime, on lui a dit on t'aime mais au revoir.
Après Fresh, vous avez failli monter un média et finalement vous avez décidé de lancer une agence de conseil. Comment ça s'est fait le passage de l'un à l'autre? Et c'est quoi pour toi le lien entre un média et une agence de conseil?
Alors, il y a deux raisons pour lesquelles on a fait un truc de conseil et pas un média. Première raison, l'argent. On adore l'argent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un média, ce n'est pas rentable. Tu comprends? C'est pas du tout un truc rentable. Et puis, il fallait lever de l'argent. Et franchement, on avait la flemme d'avoir des associés. On ne voulait pas distribuer nos futurs millions. Et on ne voulait pas. Et aussi... il y a un autre side raison, c'est que on sortait des médias et qu'on disait franchement est-ce qu'on va recréer un truc. Aujourd'hui, à cette époque-là, il y avait tous les médias sociaux qui commençaient à se lancer, ça nous saoulait de faire pareil. Et il y a un autre truc qui est que la réalité des médias, c'est quoi? T'es un passeur de messages. C'est-à-dire que tu dis juste voilà, il se passe ça dans le monde, regardez. Sauf que quand t'es une marque et que tu as l'argent du coup, toi tu as l'impact. Et que les marques sont parfois plus puissantes que les gouvernements. Donc, nous, on nous a souvent dit Xavier Niel a plus de pouvoir qu'Emmanuel Macron. Donc, moi, c'est sur Xavier Niel.
Il a des médias aussi.
Il a des médias, évidemment. Donc, c'est intéressant d'avoir un business et aussi de gérer des médias. Mais nous, en tant que personne, on est aussi un peu des médias. Donc, ça me suffit, moi, ça. Et d'avoir aussi une influence sur les médias via les réseaux sociaux en leur mettant la pression, en faisant du lobbying, un peu, si tu veux. Ça me suffit. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir de l'impact auprès de ceux qui ont le pouvoir. Ceux qui ont l'impact. Je veux de l'impact auprès de ceux qui ont un impact. Et tu vois, quand tu marches dans la rue et que tu vois de la pub, ça définit qui tu vas être demain, une pub, en vrai. Tu vois, si tu vois tout le temps le même type de meuf dans la rue, t'as envie d'être cette meuf. Et moi, c'est ça que je veux changer.
Forcément, une marque, son but, c'est de vendre. Donc, si le but principal, c'est l'argent, ça peut pas être la valeur ou ça peut pas être un discours aussi intègre qu'un média dont le but est juste le récit en soi et non pas le récit au service de l'argent.
Moi, je pense que les valeurs ne sont pas du tout contradictoires. C'est pas du tout antinomique d'avoir des valeurs et de vouloir faire de l'argent et d'avoir un business. Et aujourd'hui, le système capitaliste tel qu'on le connaît, il est tellement dur à détruire que je me dis, au lieu de le détruire, il vaut mieux en faire quelque chose de bien. Moi, je veux gagner de l'argent, mais je veux aussi défendre des valeurs. Avec Julia, on refuse plein de clients s'ils ne collent pas avec nos valeurs. Et je pense que c'est pas du tout antinomique, tu vois. Et il y a plein de groupes qui nous approchent, qui ont vraiment une volonté de faire les choses bien. Ils se disent, voilà, on fait des milliards de chiffres d'affaires, on ne peut pas ne pas redistribuer. Et moi, j'ai envie de les accompagner dans cette démarche. Et aujourd'hui, une association, comment elle gagne de l'argent? Faut arrêter. J'en ai marre aussi qu'on. C'est comme pendant le confinement, tu vois, on dépendait que des dons des gens. On s'attendait à ce que un citoyen qui est au chômage, en fait, parce qu'il y a le Covid, fasse un don aux hôpitaux de Paris. Non, moi, ça me saoule. J'ai envie que ce soit les marques qui donnent, j'ai envie que ce soit ceux qui ont de l'argent. Et une asso, eh ben, elle a besoin des dons des grosses entreprises. Et moi, je veux juste que les grosses entreprises se rendent compte de cette responsabilité qu'ils ont. Et moi-même, en tant qu'entreprise qui n'a pas une grosse entreprise, moi, j'ai une TPE, voilà. Je me vois mal aujourd'hui faire des projets sans redistribuer. Tu vois, c'est la vérité, c'est que tous nos projets avec Julia presque ont un but, une portée sociale. Je pense que tu peux faire du business et faire les choses bien.
Ta liberté de parole et ton influence, tu t'en sers aussi pour convaincre les autres influenceurs, y compris des gens qui ont d'habitude des médias très orientés vers les marques, vers le consumérisme, et t'essayes de convaincre ces gens de prendre position, par exemple de boycotter certaines marques qui font travailler les Ouïghours ou d'épouser certaines causes qui peuvent leur tenir à cœur, mais sur laquelle ils n'oseraient pas forcément prendre la parole. Est-ce que ça, t'as l'impression que ça marche et que les influenceurs, les gens qui ont des audiences singulières sur tel ou tel réseau social, ils sont prêts à se politiser et à sortir de quelque chose de plus mercantile comme média?
Ben, moi, on m'a souvent dit, enfin, en tout cas, des influenceurs m'ont souvent dit, tu es une influenceuse d'influenceurs. C'est-à-dire que et beaucoup d'influenceurs aujourd'hui viennent même me demander des conseils. J'ai souvent vu, par exemple, des tweets d'influenceurs et j'aurais dit, attention, regarde, t'as tweeté là sur ce hashtag, regarde d'où vient le hashtag, tu vois, ça vient d'activistes d'extrême droite. Ne tombe pas dans ce panneau-là. Et ils me disent, oh là là, merci, j'avais pas vu, machin truc. Après, je pense pas que tous les influenceurs soient prêts à s'engager, à se politiser et à sortir du business, tout simplement parce que c'est pas inné. Moi, je n'en voudrais jamais aux gens qui s'engagent pas, parce que je pense qu'aussi, il faut, pour parler, il faut avoir quelque chose à dire. Il faut avoir, si t'as rien à dire, ça sert à rien de parler, il vaut mieux ne pas parler d'ailleurs. Donc j'aime les influenceurs qui s'engagent, mais s'ils s'engagent pas sincèrement, ça sert à rien et ça leur retombe toujours dessus. Donc, mais j'essaye vachement de les pousser. Il y a une influenceuse, notamment une meuf qui a fait de la télé-réalité, qui m'a contactée il y a récemment et qui m'a dit, Élise, je viens te voir toi, voilà, j'aimerais m'engager, mais je sais pas comment. Et je lui dis, ben c'est simple, est-ce qu'il y a un sujet qui t'anime? Et elle me dit, ouais, de ouf, la PMA. Je lui dis, ben voilà, t'as trouvé ton sujet. Approche-toi d'associations, approche-toi renseigne-toi sur la loi bioéthique et essaye de trouver des mots pour en parler. Il y en a une autre candidate de télé-réalité qui m'a approchée pareil, qui voulait aider les enfants. Je lui dis, bah super, je vais te préparer une liste d'associations que tu pourrais aider, pourquoi pas, contacte-les et on voit comment ça peut se passer. Donc je pense aussi qu'ils ont besoin d'être accompagnés, les jeunes surtout, et les gens qui ne viennent pas de milieux militants ou associatifs. Mais voilà, mais ils ne sont pas tous prêts à le faire. Moi j'ai des copains influenceurs, des petits de 19 ans que j'adore, que je suis un peu leur grande sœur. Ils ne sont pas du tout prêts à prendre la parole, mais parce qu'ils savent qu'ils vont se faire défoncer s'ils le font. Les réseaux sociaux sont très intransigeants.
Et dans tout ce que vous avez fait ces dernières années avec Julia, vous avez aussi lancé un podcast pour Spotify qui s'appelle Coming Out. Vous interviewez des personnes de la communauté LGBT qui racontent comment elles ont pris la parole sur ce sujet-là, comment elles ont dit à leur famille qu'elles étaient gays ou trans. Et dans ces personnalités, il y a aussi bien Xavier Dolan que Mounir Benjoubi, qui est député, que Eddie Depreto, Bilal Hassani, etc. Donc des figures de la pop culture, des figures politiques, etc. Est-ce que c'est cette liberté de parole qui fait que vous arrivez aussi à aller vers des gens aussi différents les uns des autres? Moi, je connais peu de figures publiques en France qui donnent l'impression d'avoir un réseau aussi éclectique.
Avec Julien, on adore rencontrer des gens. En fait, on est tellement bavardes. C'est-à-dire qu'il nous est arrivé de rencontrer des clients dans un ascenseur. C'est-à-dire qu'on est dans un ascenseur, en train de se taper des barres. Il y a une femme qui est à côté de nous. On essaie de lui parler parce qu'on la trouve stylée. Et en fait, on se rend compte que c'est une énorme PDG. Et après, elle nous dit, bah, les filles, vous étiez trop sympas, venez, on fait un rendez-vous. Je sais pas, vous montrez ce que vous faites. Et ça devient notre cliente. La plupart de nos clients, on les a rencontrés bourrés en soirée. La plupart des gens qu'on connaît, qui sont invités dans notre podcast, on les a rencontrés pareil, en soirée. Ou... Enfin, en fait, on s'intéresse profondément aux gens, je pense. Moi, je suis profondément intéressée par ce que les gens ont à raconter. Je suis obsédée par la rencontre. C'est pour ça que d'ailleurs, cette période est très dure pour moi, parce que ça me tue de ne pas pouvoir rencontrer de gens et de ne pas pouvoir parler et d'apprendre des nouvelles choses de gens. Voilà, c'est tout, c'est qu'on est curieuse, franchement. Il nous arrive d'être au restaurant, on est toutes les deux en train de se parler, puis on voit à côté de nous une femme, on va dire, de 80 ans avec sa petite fille, on les trouve trop belles, et on leur parle, on leur dit, voilà, vous êtes trop belles, enfin, racontez-nous votre vie, vous avez l'air d'avoir une relation de ouf. Un peu comme des journalistes, tu vois, enfin, on est un peu psy, et journalistes, on a toujours envie de tout savoir sur les gens. Et puis finalement, cette femme, en fait, est une ancienne députée et elle te raconte que, enfin, elle te raconte des trucs de ouf et elle te dit, oh là là, mais il faut que je te présente ma petite fille qui a une chaîne d'hôtel et cette chaîne d'hôtel a besoin d'une stratégie de com. Enfin, tu vois, ça se fait comme ça. C'est que des trucs comme ça. Et c'est ce qu'on recommande à tous nos potes, c'est d'échanger avec les gens, de leur parler. Et c'est pour ça que les gens s'imaginent. Et puis les gens souvent nous reprochent d'avoir trop de potes. Ouais, on comprend pas ce que vous faites, les filles, vous êtes forcément hypocrites parce que vous êtes trop potes avec tout le monde, vous connaissez tout le monde, c'est chiant, en fait. Mais c'est juste que profondément, j'adore les gens. J'ai envie de les rencontrer, j'ai envie de leur parler. J'adore avoir plein de gens autour de moi que je peux voir, avoir une diversité de gens à rencontrer. Et oui, bah, ça va être peut-être des gens connus parfois, mais c'est comme ça, même sans les gens connus. Enfin, on a plein de potes.
Il y a personne à qui vous avez peur de parler ?
Franchement, non. Je vais te dire honnêtement, non. Il y a des gens qui nous impressionnent. Qui m'impressionne ? Ouais, en fait, je sais pas. Ben non, parce que quand tu commences à rencontrer une personne très connue et que tu te rends compte qu'en fait c'est une personne normale, ben tu te rends compte que personne n'est si impressionnant que ça et tout le monde a des fêlures, tout le monde a des faiblesses. Et surtout, je n'aime pas renvoyer à quelqu'un l'image que je suis impressionnée. Parce que si je renvoie cette image, ça crée une relation inégale et je ne supporte pas la domination. Donc je veux que tout le monde soit mon égal. Mais c'est vrai que si je me retrouve... Enfin, en fait, Xavier Niel, il peut m'impressionner, ouais. Aujourd'hui, non, parce qu'on échange, mais...
Pourquoi lui ?
Bah, parce que Xavier Niel, c'est un exemple pour moi de réussite. C'est un mec qui s'est fait tout seul, qui aujourd'hui a un empire qui est colossal et qui prend quand même le temps de répondre à mes mails parce que ma Freebox ne marche pas. Donc, je le trouve iconique.
Parce que c'est la personne qui a lancé Free.
Ouais, c'est ça. Et je vais te dire, quand on est sorti de Fresh, qu'on voulait lancer un média ou je sais pas ce qu'on voulait faire, mais en tout cas, on voulait lever des fonds sans trop savoir ce que ça voulait dire. On avait trouvé son mail, on lui avait envoyé un mail. On était personne. Et il nous avait répondu et il nous avait mis en relation avec la direction du groupe Le Monde. Et je me dis, c'est ouf, en fait, de faire ça, surtout qu'on était deux petites meufs de 23 ans qui n'avaient encore rien fait. Enfin, on avait fait Fresh, mais c'était pas connu d'un mec comme Xavier Niel, tu vois. Et... En fait, j'aime les gens bons et ça m'impressionne, les gens qui sont bien.
Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des choses que tu n'as jamais osé dire ou des choses dont tu as peur de parler, sur lesquelles tu te sens moins libre ?
Évidemment. Aujourd'hui, j'ai très peur de prendre la parole sur ma vision du féminisme et j'ai très peur de prendre la parole sur ma vision de l'antiracisme. Et j'aimerais vraiment... Parce que je sais que ça va être forcément mal interprété, alors que je pense qu'en tant que personne... en tant que femme et en tant que femme juive, j'ai autant de choses à dire que des gens qui ne sont pas dans mon cas. Et je pense que j'ai le droit d'être maladroite dans ce que je dis. Je dis ça parce que j'ai jamais encore rien dit sur ça. Hein. Mais j'ai peur d'être maladroite et je me dis putain, ça me fait chier d'avoir peur d'être maladroite parce que je sais comment les gens sont violents avec ces sujets-là en ce moment. Et tu vois, je me suis retrouvée sur Clubhouse il y a 3 jours.
Qui est le nouveau réseau social entièrement sonore.
C'est entièrement sonore et en fait, tu peux créer des espèces de conférences où n'importe qui peut prendre la parole. Et je me suis retrouvée dans une room, ça s'appelle, c'est une room, c'est le groupe de parole, qui parlait de racisme et d'inclusion. Et donc, il y avait énormément de personnes qui étaient musulmanes, qui prenaient la parole sur le racisme et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'était en fait la première fois que je me retrouvais dans un espèce d'espace hyper intime où les gens se parlaient franchement entre personnes d'une même communauté. Okay, ils se disaient, bah voilà, moi j'en ai marre parce que quand j'étais au lycée, voilà, en cité, on ne m'a pas proposé d'autre alternative que de devenir électricien. Bref, je suis entrée dans cette conve en tant que juive et je leur ai dit voilà, moi je suis juive, voilà ma vision d'antisémitisme, ce que j'ai vécu. Et je leur ai dit, je pense qu'on n'échange pas entre communautés. Et je pense qu'on aurait beaucoup à s'apprendre sans paternalisme, qu'on aurait beaucoup à s'apprendre sur nos moyens de fonctionner. Et j'ai jamais pu avoir ce dialogue, mais j'ose pas en parler en story, tu vois, par exemple. C'est des sujets qui sont trop brûlants, qui sont trop intenses. Pareil, dans les mouvements féministes, nous, on a toujours été dans des clubs féministes ultra radicaux, et j'adore. Moi, je me considère comme une féministe assez radicale, mais en fait, j'ai envie d'être beaucoup plus inclusive. J'ai envie d'inclure les hommes. Je me dis que ce combat, il peut pas se faire sans eux. J'ai envie d'accepter que des femmes aient le droit à l'erreur, en fait, et de ne pas les défoncer. Il y a beaucoup trop d'embrouilles entre femmes dans cet activisme. Bon, je parle du petit milieu parisien, de l'activisme féministe, mais parfois j'aimerais un peu plus de bienveillance et de tolérance, et j'ai peur de parler de ça.
Cet épisode de Fracas a été monté par Julia Courtois, réalisé et mixé par Malo Williams. La musique a été composée par Valentin Fayot. Fracas est un podcast produit par Louis Média et Radio Nova. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à aller commenter sur Apple Podcasts, à en parler autour de vous et à découvrir nos autres podcasts, notamment Passage, émission d'histoire vraie ou encore Émotion, dont le titre est assez explicite. Et si vous voulez soutenir Louis et nos projets, vous pouvez vous abonner au club louismedia.com/club. À très vite.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.